Bonsoir à toutes et à tous. La Chine toujours plus forte. Pékin s'apprête à signer dans les jours qui viennent un vaste accord avec l'Europe sur les investissements, même si la France conditionne sa signature au respect des droits de l'homme et notamment à la question du travail forcé des Ouïghours. Car question, comment entretenir des relations durables et amicales avec un régime autoritaire qui bafoue les libertés individuelles? Et pourtant, la montée de la Chine s'impose bel et bien à tous. Une Chine qui a triomphé du virus, qui domine les télécoms et veut décrocher la Lune. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Après le Covid, la Chine encore plus forte ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'IRIS, dont la dernière revue était consacrée au duel Chine-États-Unis. Et puis, je rappelle votre atlas du monde global avec Hubert Védrine. C'est aux éditions Armand Collin, ainsi que votre chaîne YouTube, hein, Comprendre le monde, qui atteint les 100 000 abonnés. En duplex depuis Tokyo, on retrouve Valérie Niquet. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de La puissance chinoise en 100 questions. C'est aux éditions Talendier. Et enfin, Marie-Françoise Renard, vous êtes professeure d'économie à l'Université Clermont-Auvergne, responsable du département Chine au Centre d'études et de recherche en développement international et auteure de L'économie de la Chine aux éditions de La Découverte. Merci de participer à cette émission en direct. Marie-Françoise Renard, je commence avec vous. On apprend que l'Europe et la Chine vont signer un grand accord sur les investissements. Je croyais que l'heure était aux relocalisations et qu'on se méfiait maintenant de la Chine, en tous les cas, que l'heure n'était plus à ces grands accords, là, Europe-Chine ou Europe-Amérique du Sud.
Alors, il y a une tentation de relocalisation, en tout cas de régionalisation. On voit bien que la Chine, comme l'Europe ou comme les États-Unis, souhaitent être moins dépendants pour leur production industrielle. Et donc, ils vont certainement chercher à développer certains secteurs sur leur territoire national plutôt que d'importer, par exemple, les semi-conducteurs. Mais ça n'empêche qu'ils veulent profiter du marché européen, comme les Européens veulent profiter de l'immense marché chinois. Et cet accord, dont je pense qu'il faudrait bien réfléchir avant de le signer, puisqu'il va définir les règles du jeu et qu'après il sera difficile de revenir dessus, cet accord il est très important puisqu'il va permettre à l'Europe et aux États-Unis de fixer le cadre dans lequel, dans les années qui viennent, les investissements pourront se produire. Et on voit bien que les enjeux sont très importants parce que, vous l'avez souligné, on y reviendra, il y a la question des droits de l'homme, mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont en jeu dans cet accord parce que la politique européenne et la politique chinoise en matière économique et notamment en matière de politique industrielle sont très différentes. Il faut que les intérêts, en tout cas pour nous, les intérêts européens soient protégés et donc que cet accord soit suffisamment clair pour que si la Chine ne respecte pas les règles et ne respecte pas cet accord, eh bien, il y ait la possibilité d'avoir des mesures de rétorsion ou en tout cas qu'il y ait une organisation institutionnelle pour qu'on puisse imposer ces règles. Donc, le contenu de cet accord, il est très important.
Pascal Boniface, on soupçonne les Allemands de pousser beaucoup à la roue pour qu'on signe cet accord. Les Allemands, est-ce qu'on n'est pas prisonnier un petit peu de ces constructeurs automobiles allemands qui veulent vendre toujours plus de Mercedes avec les Chinois et qui sont prêts à signer tous les papiers pourvu que les Chinois leur achètent des voitures?
C'est vrai que des fois, on peut parler un peu de la diplomatie de la Mercedes parce que c'est très important en Allemagne. C'est pour cela que Mme Merkel a essayé de garder des relations à peser avec Donald Trump, même si c'était compliqué, parce qu'elle avait toujours peur que Trump coupe les exportations. Les constructeurs automobiles allemands exportent un tiers de leur production en Chine. Donc c'est important. Et la Chine est le troisième marché pour l'Allemagne, après les États-Unis et la France. Il y a un petit déficit commercial, mais ils importent 110 milliards, ils exportent 90 milliards. Et puis, Mme Merkel s'est rendue 12 fois en 15 ans de pouvoir en Chine. Donc on voit que c'est un marché important, c'est un partenaire important. Si on ajoute à cela que la présidence de l'Union européenne de l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui préside l'Union européenne. Ça se termine le 31 décembre. Donc, le fait de signer un accord, tous les pays font ça, c'est pas seulement l'Allemagne. Tous les pays essayent de mettre un peu un bilan positif dans leur présidence. Donc, ça pousse un peu à conclure avant la fin de l'année. Mais l'Allemagne ne décide pas seule. La France a posé des conditions, les autres pays aussi. Donc, oui, il y a une impulsion allemande, mais l'Allemagne ne pourra pas décider seule des relations commerciales avec la Chine. Ça se décide à 27, même si dans les 27, il y en a qui ont un peu plus de poids que les autres.
Parce que Valérie Niquet, c'est vrai, on dit beaucoup que l'Europe n'est plus naïve. Autrefois, on parlait de l'Eldorado du marché chinois. Maintenant, je crois que c'est le terme officiel. La Chine est décrite par l'Union européenne comme un rival systémique. D'ailleurs, si vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire qu'être un rival systémique, c'est ce qu'est la Chine pour nous.
C'était la manière pour l'Union européenne de montrer que, justement, comme vous l'indiquiez, on quittait cette naïveté qui ne voyait dans la Chine qu'une opportunité, notamment économique, et que les relations avec la Chine étaient essentiellement du domaine économique, ce qui est d'ailleurs le champ d'action privilégié pendant très longtemps de l'Union européenne. Et désormais, on a pris note du fait que, comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a des différences de système politique, des différences de système économique et des avantages que les autorités chinoises donnent à leurs propres entreprises et à leurs propres investisseurs qui font que la relation n'est pas symétrique, elle n'est pas égale, elle n'est pas, comme le disent souvent les Chinois, véritablement gagnant-gagnant. Et c'est encore plus vrai comme l'Allemagne s'en est bien tirée, parce que l'Allemagne a une grande force d'exportation, notamment grâce à son tissu industriel, il faut reconnaître cet élément-là. Mais la France, par exemple, et l'Union européenne d'une manière générale, bien que l'Union européenne soit le premier partenaire commercial d'une manière globale de la Chine, les déficits sont considérables, et dans le cas de la France, ils sont particulièrement importants. Donc l'idée, ce serait d'arriver à un rééquilibrage des relations avec la Chine. Et c'est vrai que l'accord dont on parle, qui n'est pas encore signé, d'ailleurs la réunion qui était prévue mardi a été ajournée, ce qui prouve bien qu'il y a des problèmes encore et des désaccords entre les différentes parties, y compris d'ailleurs de la part de pays qui sont plutôt proches de la Chine, comme la Pologne. On a beaucoup parlé de ces nouveaux Européens qui étaient plutôt favorables à Pékin. Eh bien, ces pays-là s'inquiètent des relations qui seraient mises en place avec ce nouvel accord et s'inquiète également des réactions des États-Unis et voudrait qu'il y ait une meilleure coordination entre les États-Unis avec le nouveau président Joe Biden et l'Union européenne avant de signer cet accord un peu en vitesse pour pouvoir le faire avant la fin de l'année, comme on l'a indiqué tout à l'heure.
Marie-Françoise Renard, qu'avons-nous à gagner avec les Chinois? On a vu que Renault a quitté la Chine en disant que finalement, ce n'était pas intéressant. Carrefour a quitté la Chine. On a l'impression que nous, Français, nous avons beaucoup de désillusions vis-à-vis de ce marché chinois. On a plus l'impression qu'on s'est fait piller nos technologies plus que l'on aurait gagné des marchés.
Alors, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'effectivement, il y a eu des transferts forcés de technologies. Et je crois que d'ailleurs, dans cet accord, il faudra préciser que ces transferts forcés sont interdits, enfin que la Chine ne peut pas obliger au transfert de technologie. Les entreprises françaises en Chine ont quand même fait des affaires importantes. Ça leur a permis à certaines périodes de pallier la baisse ou la faiblesse d'une partie de leurs activités dans d'autres pays, et notamment en France. La situation a changé parce que la situation économique de la Chine a changé également, que l'économie aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ou 15 ans. Mais si on s'intéresse autant au marché chinois, c'est parce qu'il y a des secteurs comme le secteur des services qui sont prometteurs pour les entreprises françaises. On a parlé il y a un instant de l'automobile allemande. En France, on sait que, par exemple, le secteur des maisons de retraite, qui est assez développé, est un secteur qui va se développer en Chine parce qu'avec l'allongement de la durée de vie, avec la politique de l'enfant unique, beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules, qu'il n'y a pas de véritablement d'État-providence en Chine, donc la situation est encore difficile pour elles, donc l'avenir des maisons de retraite, même s'il y a une question de coût, est quand même quelque chose d'assez important. Donc pour toutes les entreprises de ce secteur-là, des services autour de la personne, de la santé, sont des secteurs qui sont prometteurs. La Chine est un marché très important, même si l'objectif du gouvernement est de se plutôt retourner sur le marché intérieur et donc avoir une production domestique qui puisse servir la consommation, il est bien évident que cette production domestique sera insuffisante et que donc les entreprises étrangères ont encore des possibilités si elles investissent en Chine. Et d'ailleurs, une étude de la Chambre européenne de commerce qui a été faite récemment a montré que les entreprises qui étaient installées en Chine, qui avaient investi en Chine, n'avaient pas l'intention de changer de stratégie. Je crois qu'il y en a 7% qui comptaient baisser les investissements. La plupart des autres voulaient soit les maintenir, soit les accroître. Donc c'est quand même l'illustration que ce marché représente un potentiel pour les entreprises européennes.
Pascal Boniface, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que Au fond, en Chine, on se compromet, on se fait voler nos technologies, on est obligé, EDF, de donner la technologie du nucléaire, de donner la technologie du TGV, et qu'ensuite les Chinois nous reviennent en redoutables concurrents et qu'on n'a rien de bon à gagner là-bas.
Alors, on a à gagner, mais c'est vrai que ce n'était pas égalitaire. C'est-à-dire que les Chinois imposaient des conditions aux entreprises européennes, en général, qui n'étaient pas égalitaires. Il y avait une liberté d'investissement, une plus grande liberté d'investissement des Chinois en Europe, alors que les investissements étaient strictement encadrés, parfois interdits, avec obligation de laisser une certaine place aux partenaires chinois. Et cet accord, s'il était signé, viendrait à corriger ces déséquilibres. C'est pour ça que les Européens veulent le signer. C'est que, en fait, les Chinois sont rentrés à l'OMC alors qu'ils étaient encore faiblement développés. Ils représentaient à l'époque 10% du PIB des États-Unis. Maintenant, ils en sont à 70%, 65%. Ils sont développés. Ils voulaient toujours appliquer les mêmes règles d'un pays en voie de développement. Et donc, l'idée, c'est pour ça que l'on veut signer cet accord, c'est pour rééquilibrer un peu la donne et pour faire en sorte qu'il soit plus facile d'investir pour les Européens en Chine et qu'il soit plus facile de protéger les investissements. D'accord. Et donc, c'est pour cela que les Européens, même si cet accord n'est pas encore tout à fait, c'est pas une vraie parité entre Européens et Chinois, mais c'est un correctif. D'où l'hésitation, est-ce qu'on prend le correctif alors qu'il y a encore des défauts, et notamment la question extrêmement importante du travail forcé, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et où est-ce qu'on demande encore un peu plus parce que, effectivement, d'accord, c'est un rééquilibrage par rapport à un dysfonctionnement dans les relations entre la Chine et les pays européens.
Voilà, donc cet accord qui est négocié, qu'on devrait signer, vise à rééquilibrer en notre faveur les relations
partiellement,
entre les deux pays, même si le rééquilibrage n'est pas total. Alors, l'économie chinoise, elle, en tous les cas, semble insubmersible. La pandémie est vaincue et la Chine sera cette année l'un des rares pays à afficher une croissance positive de son économie. Et l'année 2021, elle, s'annonce radieuse. Vous voyez ce sujet de Pierre Barbin et Aurélie Saner.
Dans un monde au ralenti, l'activité de ce port chinois fait figure d'exception. L'illustration d'un pays qui ne connaît presque pas la crise. Cette entreprise basée à Canton, dans le sud de la Chine, fabrique des enceintes. Quand le reste du monde se reconfine, son carnet de commandes explose. Tous ses produits sont aujourd'hui vendus à l'étranger.
Je ne vais pas vous dire que le Covid-19 soit la meilleure chose qui nous soit arrivée, mais depuis l'épidémie, notre chiffre d'affaires a plus que doublé. On est arrivé à un niveau que, dans mes prévisions ou rêves les plus fous, je n'imaginais pas atteindre avant 2 ou 3 ans. Mais le Covid a tout accéléré.
Autre atout de taille en pleine crise sanitaire, masques, blouses et tests sont fabriqués en majorité dans les usines du pays. Le mois dernier, les exportations ont bondi de 21%, un record. Boosté par cette reprise, le pays devrait donc connaître une croissance positive cette année, plus 1,9%. Des résultats exceptionnels alors que les autres puissances mondiales vont connaître la récession. Le produit intérieur brut américain devrait lui reculer de 4,3 points. Et c'est pire dans la zone euro, moins 8,3%.
On est les premiers guéris et notre économie est à nouveau sur les rails. Désormais, on peut fournir au monde entier tout ce dont il a besoin.
Mais la Chine ne compte pas s'arrêter là. Sur la table depuis 2013, un projet d'accord avec l'Union européenne porté par l'Allemagne. Un vaste pacte pour favoriser les investissements entre les deux puissances économiques.
Les négociations sont entrées dans la dernière ligne droite. Et tant que les deux parties prendront soin des préoccupations de l'autre et continueront à négocier, nous serons en mesure d'atteindre les objectifs fixés par les dirigeants des deux côtés.
Mais tout n'est pas si simple. Au cours des 10 réunions de l'année, les relations ont parfois été glaciales. Parmi les nombreuses divergences, un accès équilibré au marché et un meilleur respect de la propriété intellectuelle.
Nous devons absolument aller de l'avant. Et là, nous n'en sommes qu'au début. Le progrès, c'est la coopération bilatérale, la réciprocité, la confiance. Pour l'Union européenne, la Chine est un partenaire de négociation, un concurrent économique, un rival systémique.
Mais la Chine pourrait faire des concessions à l'heure où le pays multiplie les accords commerciaux, notamment dans le Pacifique le mois dernier.
L'ouverture permet à un pays d'aller de l'avant, alors que l'isolement le freine. Dans le monde d'aujourd'hui, où la mondialisation économique est devenue une tendance irréversible, aucune nation ne peut se développer en maintenant ses portes fermées.
Et qu'en est-il des relations avec les États-Unis ? L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pourrait-elle changer la donne ?
Vu de Pékin, Joe Biden sera quelqu'un de plus prédictible. Donc, ils s'attendront à moins de soudaineté dans les réactions américaines ou des actions peut-être un peu brutales et violentes à leur goût. Ça prendra probablement du temps. Il y aura une sorte de force d'inertie de l'empreinte de l'administration Trump qui, pendant 4 ans, est allée de surenchère en surenchère.
La Chine, annoncée comme la première puissance mondiale d'ici à 2030, pourrait doubler les États-Unis plus tôt que prévu.
Justement, cette question, Pascal Boniface, la Chine n'est-elle pas toujours la première puissance mondiale, parce que la Chine va devenir la puissance mondiale. C'est Frédéric du Maine-et-Loire qui nous fait remarquer, j'ai l'impression que les Chinois cochent toutes les cases. C'est vrai, on a l'impression qu'ils sont déjà numéro un.
Pas encore. Leur PIB est inférieur au PIB américain. En termes stratégiques et militaires, ils n'ont pas la puissance militaire américaine. Et on peut dire qu'en termes de pouvoir d'attraction, ce qu'on appelle le soft power, oui, ils sont également loin. Donc non, la puissance économique va devenir la puissance numéro un d'ici effectivement une dizaine d'années. Et le Covid-19 a accéléré ce rattrapage. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser le PIB américain, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va le faire, d'ici une dizaine d'années. Mais même lorsqu'elle aura dépassé en termes de richesses produites les États-Unis, les États-Unis garderont des atouts extrêmement forts. Les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale au début du XXe siècle. Ils sont devenus la première puissance globale seulement à la moitié du XXe siècle. Donc il y a quand même un décalage. Mais c'est vrai que l'effet de rattrapage sur une période aussi courte, de façon aussi rapide, est franchement sidérant.
Agnès Godu, vous nous avez rejoint. Donc je vous rappelle, vous êtes journaliste, sinologue, chef du service Asie à Courrier International. L'une des choses qui donne l'impression que les Chinois, bah, finalement, ils sont fantastiques, ils sont déjà numéro un mondial, c'est qu'ils ont vaincu le Covid, à tel point qu'on se demande comment ils ont fait. Mais du coup, on s'est dit, bah voilà, c'est l'économie du 21e siècle, c'est ceux qui s'en sortent le mieux dans ce nouveau siècle qui s'annonce.
Alors, qui s'en sortent le mieux, oui, avec les données qu'ils veulent bien nous fournir, déjà. Ça, c'est la première chose.
Parce qu'elles sont pas... C'est vrai qu'on est toujours surpris de leur nombre de décès, 4634 décès. On sait que les Chinois ont bien maîtrisé cette épidémie, mais 4634 décès, on a l'impression qu'ils se complaisent à toujours trafiquer leurs statistiques.
Alors, je ne sais pas s'il y a un grand trafiqueur des statistiques chinoises. En revanche, il y a une habitude généralisée de la bureaucratie chinoise d'effectivement de minimiser tout ce qui peut faire tâche dans la belle harmonie chinoise. Ça, c'est une première chose. Et on sait de manière quasiment certaine que ce chiffre ne reflète une certaine réalité, mais certainement pas une réalité entière. Est-ce que quelqu'un a voulu délibérément la manipuler ? C'est encore une autre question et je ne me prononce pas. En revanche, ce qui frappe, c'est le degré de notre ignorance sur ce qui s'est réellement passé dans le pays. Moi, j'ai passé toute la crise du Covid à scruter la presse chinoise, ce qui se passait dans la Chine, à regarder, etc. On a eu l'impression qu'il n'existait plus que Wuhan. Or, il n'existait pas plus que Wuhan. Il existait tout un pays qui était affecté à des degrés divers et dont les informations n'ont pas été couvertes. En tout cas, pas avec mes propres petits moyens et pas avec les moyens de la presse internationale qui était elle-même bloquée à Pékin. Donc on sait quand même qu'on a forcément toute une zone grise de manque d'informations. De la même manière qu'on a cet énorme manque d'informations sur l'origine de ce virus. Et même l'OMS, qui va peut-être finalement réussir à envoyer une délégation là très prochainement à Wuhan, enfin, au bout d'un an, a du mal à avoir un dialogue scientifique, constructif, avec les autorités chinoises. De ce point de vue-là, c'est quand même l'une des plus grosses tâches qu'il y a dans la confiance qu'on peut avoir dans les autorités chinoises.
Valérie Niquet, c'est curieux que la Chine, qui est forte, enfin, on s'en rend tous bien compte, qui arrive à faire beaucoup de choses extraordinaires, eh bien, elle n'a pas cette assurance qui lui permettrait d'être transparent. Elle ne veut pas être transparente, elle continue d'être cachotière et du coup, bah, logiquement, nous sommes méfiants. Pourquoi ? C'est dans sa culture de ne pas dire la vérité ?
Alors, c'est dans la culture du système politique lui-même qui contrôle l'information, quelle qu'elle soit, en Chine même, ce qui vient de l'extérieur et ce qui sort de Chine, ce qui doit être diffusé à l'extérieur. L'information est politique en Chine, il n'y a pas uniquement en Chine, mais en Chine, ça fait partie véritablement du système. Il y a toute une série de règles qu'Agnès Godu connaît parfaitement, qui tous les jours quasiment listent un certain nombre de sujets qui ne doivent absolument pas être traités dans la presse. Il y a une censure extrêmement sévère, il y a une censure de Internet, et donc l'information en Chine peut être dangereuse pour le régime si on dit des choses qui pourraient apparaître comme négatives. Et à l'inverse, il faut absolument montrer, et ça n'est pas uniquement lié uniquement à cette crise, c'est quelque chose qu'on trouve tout le temps quand on observe la presse chinoise et le mode de fonctionnement du système chinois, il n'y a que des nouvelles positives, sauf si, exceptionnellement, le pouvoir a besoin de laisser une sorte de soupape de sécurité, et donc on laissera un tout petit moment s'exprimer un mécontentement, mais pour immédiatement le reprendre en main. Donc le contrôle de l'information est au cœur du fonctionnement du système politique en Chine. C'est pour ça d'ailleurs que, comme on l'indiquait, cette fameuse mission d'inspection de l'OMS, bien que l'OMS a eu des positions qui étaient plutôt favorables aux positions chinoises, en tout cas initialement, eh bien a énormément de mal à obtenir l'autorisation non seulement d'aller en Chine, mais même d'aller à Wuhan. Et même s'ils allaient à Wuhan, il n'est pas du tout certain qu'on leur offre une information totalement ouverte ou une capacité d'examiner ce qui s'est passé sans contrôle. L'information en Chine n'est jamais libre, elle est toujours contrôlée. Ça vaut d'ailleurs aussi pour l'information économique, ce qui pose de gros problèmes dans la coopération économique et les investissements. On a vu souvent des faillites étranges d'entreprises chinoises, des entreprises chinoises qui rachetaient une entreprise étrangère et puis qui disparaissaient ou qui n'investissaient pas. Et en fait, on a très très peu d'informations sur la réalité de ces grandes entreprises chinoises, par qui est-ce qu'elles sont détenues, le rôle de l'État, le rôle du Parti communiste. Et pour les plus faibles, il ne faut pas oublier non plus la corruption qui est très importante. Et tout ça fait un brouillard qu'il faut absolument conserver pour préserver cette image brillante, pleine de succès, que la Chine veut absolument projeter à l'extérieur, parce que ça fait tout simplement partie du processus de légitimation du régime tel qu'il existe aujourd'hui.
Marie-Françoise Renard, on peut quand même s'étonner de ce qu'on signe de grands accords commerciaux avec ce pays, la Chine, dont Valérie Niquet vient de décrire les méthodes, c'est-à-dire un pays, au fond, qui ment un peu sur tout, hein, sur les normes, etc. Alors qu'on est extrêmement tatillon avec les Anglais, là, dans le cadre du Brexit, pour s'assurer qu'eux respectent bien leurs normes. On a l'impression d'un deux poids, deux mesures, qu'avec les Chinois, finalement, bon, on s'accommode vision de la vérité, de leur rapport à la vérité un peu distant.
Alors, je crois quand même que la situation entre les deux est complètement différente. Jusqu'à maintenant, la Grande-Bretagne était un pays européen dont nous sommes très proches, avec des échanges extrêmement importants. Il y a beaucoup de Français qui vivent en Angleterre et d'Anglais qui vivent en France, etc.
Il y a beaucoup de produits made in China en France.
Bien sûr, mais la proximité entre les pays n'a rien à voir. D'accord. Il y a une très grande proximité entre la Grande-Bretagne et la France sur des tas de domaines. La situation avec la Chine est complètement différente. Ce qui s'est passé avec la Chine, c'est que lorsqu'il y a eu les réformes et l'ouverture chinoise, on a eu d'un seul coup la possibilité, et c'est le choix de la politique européenne. Hein. La politique européenne, c'est une politique fondée sur la croyance dans les mécanismes du marché. Donc, on ne fait rien qui fait obstacle aux mécanismes du marché. On limite les concentrations industrielles, on veut limiter le rôle de l'État, etc. Il y a quand même une politique commerciale européenne, mais elle a été très accommodante. Donc, la Chine a pu utiliser l'énorme marché européen pour exporter ses produits. Et jusqu'à maintenant, en matière d'investissement, la réciprocité, elle n'était pas tellement importante. Mais je crois que les consommateurs, l'Europe a une politique qui est beaucoup dirigée vers les consommateurs. Pourquoi on a cette politique qui est libérale, qui soutient la concurrence, etc. C'est pour que les consommateurs n'aient pas à payer de surprix. Et donc, on a cette stratégie qui est en train de changer du point de vue européen, qui fait que l'ouverture vers la Chine a permis aux consommateurs européens de beaucoup accroître sa consommation. Vous avez dit un instant, on a été envahi de produits made in China. Ça veut dire que du point de vue de l'économiste, on améliore les possibilités de consommation des consommateurs européens. C'est ça qui a compté. On n'a pas eu à ce moment-là une stratégie industrielle qui a consisté à dire quels sont les secteurs qu'on veut garder, est-ce qu'on veut demain demeurer compétitif sur tel ou tel secteur. Ça n'a pas été ça, la stratégie européenne. Ça a été une stratégie qui a été beaucoup plus orientée vers la consommation. Et maintenant, on commence à réfléchir à la politique industrielle, qui est quand même une prérogative des États de l'Union européenne et non pas de l'Union européenne elle-même. Et les choses sont en train de changer aujourd'hui. Et pendant toutes ces années, on ne s'est pas préoccupé de politique industrielle. Alors qu'en Chine, la politique industrielle est très liée à la politique commerciale.
Pascal Boniface, à côté de cette politique industrielle, est-ce qu'on n'a pas aussi une Chine qui se sent suffisamment forte maintenant pour imposer, je ne voulais pas, l'Australie un peu, parce que dans la presse australienne critique beaucoup la Chine. Et bien du coup, l'Australie subit des mesures de rétorsion en ce moment, c'est-à-dire que les Chinois boycottent le charbon australien. Est-ce qu'attention, on a une Chine qui veut étendre au reste du monde ses méthodes qu'elle implique à son peuple ?
C'est des rapports de force. Non, les rapports de force commerciaux, c'est la même chose. Regardez, les États-Unis ont une législation extraterritoriale. Ils donnent des amendes à ceux qui exportent dans les pays où ils ne devraient pas exporter, alors qu'ils ne sont pas la société américaine. Donc, la guerre commerciale, les États-Unis la mènent encore de façon, je dirais, plus dure que la Chine. Mais effectivement, la Chine profite de son poids économique pour imposer les conditions. Et à partir du moment où l'Australie a critiqué la politique chinoise, les Chinois ont dit ben, on n'importe plus de charbon. Et il y avait un tiers. L'Australie exporte beaucoup plus vers la Chine que vers les États-Unis. Donc il y a effectivement une sorte d'effet ciseau entre des rapports politiques très importants entre le Premier ministre australien Scott Morrison et Donald Trump. Ça changera peut-être avec Biden. Mais alors que les intérêts économiques de l'Australie sont plutôt en Chine. Et la Chine fait pression. À un moment donné, ils ont fait aussi la même chose avec la Corée. Lorsque la Corée avait déployé des systèmes de défense antimissile à la demande des États-Unis, et tout d'un coup, plus aucun Chinois n'est allé en vacances en Corée. Et la Corée a subi un déficit commercial assez important parce qu'il y avait 7 millions de Chinois qui allaient tous les ans dépenser beaucoup d'argent en Corée. Donc ils savent effectivement prendre des mesures de rétorsion ou faire des menaces de mesures de rétorsion. Mais une fois encore, nous, l'Europe, on ne fait pas ça, mais enfin, on a aussi des conditionnalités dans nos échanges économiques, qui ne sont pas les mêmes, mais on pose des conditions dans les relations économiques. Et je pense que de ce point de vue-là, le pays le plus brutal, ce sont quand même les États-Unis.
Valérie Niquet, si la Chine tient à signer cet accord avec les Européens, c'est que le modèle économique chinois, il repose toujours sur les exportations. Au fond, la Chine, c'est toujours un pays qui s'enrichit en vendant au reste du monde des articles made in China. Ce n'est pas un pays qui vit sur sa consommation intérieure.
Alors justement, il y a un grand débat en Chine aujourd'hui, mais ce n'est pas un débat du tout récent, c'est le rééquilibrage en direction d'une croissance plus durable et plus fondée sur la consommation intérieure. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché pour tout un tas de raisons, notamment le fait que s'il y a un vrai marché qui existe en Chine, la Chine reste un pays pauvre et qu'elle ne peut pas remplacer à elle seule les immenses marchés que sont les États-Unis d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Mais c'est vrai que Xi Jinping a tout un discours, surtout ces derniers moi, qui c'est une sorte de découplage à la chinoise qui voudrait à la fois garder les exportations vers l'extérieur, mais également développer beaucoup plus le marché intérieur. Jusqu'à maintenant, la Chine s'est toujours heurtée aux limites de son propre marché et de ses propres capacités de consommation, où même s'il y a une classe moyenne qui existe en Chine, cette classe moyenne, en fait, doit aussi prendre énormément d'épargne, c'est un des taux d'épargne les plus élevés au monde, de précaution, parce qu'encore une fois, il y a un système social de retraite, d'éducation, toute une série de services qui existent chez nous, qui n'existent pas en Chine, qui sont extrêmement coûteux, surtout avec une population qui vieillit. Et donc en Chine, pour parer au mauvais coup du sort ou même au vieillissement tout simplement, eh bien, il faut épargner massivement, ce qui limite considérablement les possibilités de développement de la consommation en Chine même. Par ailleurs, il y a un autre point qu'on connaît moins bien, c'est que pour beaucoup d'entreprises chinoises, il est beaucoup plus sûr d'exporter, parce qu'on est à peu près certain d'être payé, que de commercer à l'intérieur de la Chine elle-même entre entreprises chinoises, où là, il y a très souvent des problèmes pour faire appliquer les règles, pour se faire payer, pour faire appliquer les décisions de justice éventuellement, ce qui fait que pour beaucoup d'entreprises chinoises, les exportations restent beaucoup plus sûres que le marché intérieur.
Agnès Godu, est-ce que ce n'est pas ça un frein au développement de la Chine ? C'est l'absence d'état de droit. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, Si aux États-Unis, si ça se passe mal, vous saisissez un juge, vous pouvez obtenir réparation. En Chine, si ça se passe mal, vous êtes face au Parti communiste local, vous faites quoi ?
Alors, c'est effectivement un très gros problème. C'est un problème qui a été maintes fois soulevé, et ça fait au moins 20 ans que la question a été posée. Je reprendrai juste un tout petit peu ce que disait Valérie Niquet tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a jamais d'informations négatives dans la presse chinoise. Il y a eu une période où il y en avait eu. Toute la première décennie de ce siècle s'est développé un vrai journalisme avec, alors effectivement, du coup, beaucoup d'affaires totalement mauvaises pour l'image du régime se déroulaient les unes après les autres, les scandales alimentaires, les scandales sanitaires, etc., économiques, la corruption, tout ça faisait une espèce de... Mais il y avait aussi un début d'attitude d'enquête et de recherche de réelles informations et de critique de la qualité de l'information. Eh bien, arrive Xi Jinping en 2012.
Et il y a une reprise en main.
Une reprise en main extrêmement sévère. Elle était amorcée un petit peu avant, mais extrêmement sévère. Une grosse lutte contre la corruption pour arrêter justement cette filière-là, ce filon-là, finalement, de la critique interne. Et par derrière cela, une grosse répression de tous les avocats. Et alors, c'est juste d'où ce retour en arrière pour dire que c'est à partir de là que le droit, qui commençait en même temps que l'information à fonctionner un tout petit peu, avec des avocats qui soutenaient les gens en délicatesse pour des raisons politiques, avec des avocats qui faisaient aussi d'ailleurs du soutien du droit économique, qui faisaient les deux à la fois, se sont retrouvés les uns après les autres critiqués en prison, privés de leur licence de travail. Donc on est maintenant dans un pays sans presse, avec une presse encore plus faible qu'au début du siècle, sans avocat, avec un système juridique et judiciaire qui fonctionne avec le risque aussi de se retrouver en prison s'il déplaît au pouvoir, et avec un système économique également à la merci du pouvoir. On a vu dans l'actualité récente ces deux dernières années, parmi les plus grands magnats de l'économie chinoise, hein, Ma Yun, qui est le grand patron d'Alibaba, qui semblait totalement intouchable, membre du Parti communiste, vitrine du Parti communiste modernisé à travers le monde, qui s'est fait taper sur les doigts avec le groupe Ant qui n'a pas pu finalement entrer en bourse. Et on a vu aussi un grand patron de l'immobilier, lui être condamné à 18 ans de prison pour avoir critiqué Xi Jinping. Du point de vue de la liberté des affaires, c'est limité.
Ça quand même, Pascal Boniface, c'est un énorme frein au développement économique. Qui a envie de faire du business, d'aller développer son affaire en Chine dans ces conditions, si du jour au lendemain, tac, Xi Jinping dans une geôle.
Pour les entreprises étrangères, il y a quand même une protection consulaire et diplomatique qui est plus forte que pour les entreprises. Si vous êtes une entreprise française, la Chine ne va pas embastiller le dirigeant d'une entreprise française pour faire pression, parce que ça poserait des problèmes politiques. Donc il y a, je crois qu'il faut distinguer les relations commerciales de la nature du régime politique. On a l'habitude d'avoir des relations commerciales avec des pays qui n'ont pas notre régime politique. Et sinon, d'ailleurs, les échanges commerciaux seraient diablement limités aux 27 ou 26 membres de l'Union européenne et quelques autres pays. Et donc, effectivement, le problème du non-respect du droit ou de la délicatesse par rapport au droit, il est beaucoup plus important par rapport aux nationaux chinois que par rapport aux étrangers, et notamment les gros investisseurs. Les Allemands n'ont pas trop de problèmes en Chine, parce que Mme Merkel sait aussi se faire respecter. Mais d'où aussi, c'est pour cela que l'Allemagne veut signer cet accord, c'est parce qu'il y a encore pas mal de scories dans l'application, surtout plutôt une inégalité de normes entre les normes qui sont appliquées aux Européens et les normes qui sont appliquées aux Chinois, plutôt grande liberté, enfin ce qui est à toi est négociable, ce qui est à moi, c'est un peu le principe chinois, donc c'est pour équilibrer cela. Mais ce n'est pas non plus le Far West que ça a été, effectivement. Alors il y avait beaucoup plus de spoliation des technologies à la fin du XXe siècle. Là maintenant, effectivement, au niveau de la politique, il y a un resserrement de la vis depuis que Xi Jinping Jinping a pris le pouvoir. Effectivement, les avocats, etc., pas mal sont été emprisonnés. Et il y a la critique si vous critiquez le régime, vous pouvez avoir des problèmes. Et en même temps, par rapport aux grands milliardaires, les BATX, notamment Alibaba, c'est aussi la volonté qu'ils ne prennent pas trop d'importance. Les Chinois le font à la chinoise. Les Américains pensent, eux, au démantèlement des GAFA pour que les règles de la concurrence soient appliquées. Les Chinois tapent sur la table en disant « tu obéis, c'est le parti qui décide de la ligne économique, ce ne sont pas les grands industriels ».
Alors, il y a un dossier en particulier sur lequel la Chine est montrée du doigt. Il s'agit évidemment de la minorité musulmane ouïghour, qui est l'objet de persécutions, internement, travail forcé. Du coup, nombre de personnalités dénoncent les exactions du régime chinois, mais aussi le silence de la communauté internationale. Vous voyez ce sujet de Barbara Steck et Pierre Dehorn.
Antoine Griezmann, champion du monde et ambassadeur de Huawei, vantant dans ses publicités la haute technologie du géant chinois.
Avec son intelligence artificielle, il prend quasiment les photos tout seul. Attendez, du coup, on n'a plus besoin d'Antoine ?
Début décembre, l'international français annonce rompre son contrat, suite à des soupçons selon lesquels l'entreprise Huawei aurait contribué au développement d'une alerte ouïghour grâce à un logiciel de reconnaissance faciale.
J'en profite pour inviter Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusations, mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse.
Huawei nie, mais l'attaque du footballeur sur le terrain des droits de l'homme met en lumière la situation des Ouïghours. Une minorité musulmane persécutée dans l'ouest de la Chine, au Xinjiang. Depuis 2017, des camps d'internement y sortent de terre. Plus d'un million de Ouïghours seraient retenus. Jusqu'en octobre 2018, la Chine nie l'existence de ces camps avant de parler de centres de rééducation. Des Ouïghours forcés à travailler au service de Pékin et des industries textiles. Une enquête réalisée par un chercheur allemand a récemment révélé l'ampleur de cet esclavage moderne.
Pour la première fois, nous n'avons pas que la preuve qu'il y a du travail forcé dans les usines. Nous avons aussi la preuve de la mise en place d'un travail forcé à grande échelle qui contraint au moins 500 000 de Ouïghours à ramasser du coton.
Des accusations niées en bloc par Pékin.
Les travailleurs de toutes les ethnies du Xinjiang signent des contrats de travail avec des entreprises sur la base de leurs propres choix professionnels, sur une base volontaire, conformément à la loi. Ils ne subissent aucune discrimination fondée sur l'appartenance ethnique, le sexe ou les différences religieuses.
Dans la foulée de ces révélations, le Parlement européen a voté une résolution d'urgence. Reprenant la célèbre tribune d'Émile Zola, « J'accuse », l'eurodéputé Raphaël Glucksmann a dénoncé le silence de la communauté internationale.
J'accuse. J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse les patrons cupides de Nike, de Zara et de tant d'autres multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. J'accuse enfin les dirigeants européens de lâcheté et de veulerie.
Malgré la répression, quelques rescapés de ces camps témoignent. Omir Bekali est l'un d'entre eux. Ce Kazakh d'origine ouïghour a été arrêté en mars 2017 sans aucun motif.
On était toujours assis, enchaînés. Avant de manger, on était obligé de faire les trois louanges. Louange à Xi Jinping, louange au Parti communiste et louange à la patrie.
Il partage sa cellule de 16 mètres carrés avec des avocats, des enseignants, des hauts dirigeants. Toute opposition ou le refus de parler chinois est sanctionné. Omir Bekali est de nombreuses fois torturé.
J'ai été frappé par deux policiers avec un bâton en caoutchouc. Puis j'ai dû rester face à un mur, debout, sans manger pendant 24 heures. Après, je suis resté enfermé dans une cellule noire, sans rien, sans nourriture pendant 24 heures. Une fois, j'ai dû rester nu en novembre, en hiver, sur la glace, et on m'aspergeait d'eau froide. Ce qui était le plus humiliant pour moi, c'est que j'étais innocent, incarcéré, et j'étais obligé de faire des louanges, remercier le Parti communiste, alors que le Parti communiste me torturait.
À l'heure où la Chine est devenue un acteur incontournable, jusqu'où l'Europe sera prête à aller pour défendre cette communauté, une des plus surveillées au monde?
Alors, question téléspectateur, le sort des Ouïghours pèse-t-il face à l'énorme marché chinois que convoitent les entreprises du luxe ou automobile? Question de Delphine à Paris. Marie-Françoise Renard.
Alors, les Ouïghours, tout seuls, n'ont évidemment pas de pouvoir, mais la communauté internationale a du pouvoir. Et si on décide, par exemple, de boycotter ces entreprises, notamment les entreprises de consommation courante qui représentent un marché très, très important, elles seront obligées de faire quelque chose. On le voit bien, malheureusement, avec des buts qui ne sont pas forcément très honorables, mais on voit bien, par exemple, en matière environnementale, qu'à partir du moment où il y a une forte pression des populations, les entreprises ont essayé de verdir, entre guillemets, leur image. Les Ouïghours eux-mêmes, évidemment, n'ont pas de pouvoir, mais je crois qu'il est très important que, comme cela commence à se faire, la communauté internationale puisse se manifester son désaccord et qu'il y ait une information sur les entreprises qui font du travail forcé et qu'on boycotte ces entreprises, qu'il y ait le plus d'informations possible.
Agnès Godou, on ne comprend pas très bien, vu d'ici, ce qui se passe avec les Ouïghours. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? D'être musulmans, de ne pas parler chinois old school? Et quel est le projet politique de Pékin vis-à-vis de ce peuple qui, ils sont 12 millions, quoi.
On leur reproche pas spécifiquement d'être musulmans ou de ne pas parler chinois de langue maternelle. On leur reproche de ne pas se fondre dans la nation chinoise, c'est-à-dire d'être différent. On leur reproche de gêner sur le chemin des routes de la soie, c'est-à-dire du transport de pétrole et de matières premières qui sont dans la région. On leur reproche, effectivement, éventuellement, d'avoir une voix discordante. De la même manière qu'on l'a reproché et qu'on continue à le reprocher aux Tibétains, dont on ne parle absolument plus, mais récemment, la Chine a organisé un voyage de presse. J'ai pu lire la traduction d'un journal japonais, l'Asahi Shimbun, qui parlait de la poursuite d'une politique absolument identique à ce qui se passe en fait au Xinjiang.
Et Valérie Niquet, on pourrait ajouter dans cette volonté qu'a Pékin de mettre tout le monde au pas, donc les Ouïghours, les Tibétains, Hong Kong. On n'en parle plus de Hong Kong, mais ça y est, c'est fait. Ils sont tous en randonnion et maintenant c'est Pékin qui gouverne. La petite liberté qu'il y avait à Hong Kong est en train de disparaître.
Ce qui est certain, c'est que depuis l'imposition de la nouvelle loi de sécurité nationale à Hong Kong sous la domination, sous l'égide de Pékin, les choses ne vont pas bien du tout. Il y a eu, certains pensaient initialement que peut-être la loi ne serait pas trop sévèrement appliquée, mais on voit qu'il y a des arrestations, des emprisonnements, y compris, là encore, des personnalités extrêmement visibles et très connues. Donc, ce que montre le régime chinois, c'est que finalement, c'est une sorte d'hubris. Il fait ce qu'il veut et peu importe les réactions internationales. Pour Xi Jinping, il s'agit de démontrer que lui-même, surtout, et la Chine sont puissantes et que la Chine peut faire exactement ce qu'elle veut, que ce soit Hong Kong, on parle des Ouïghours, on parle de peu du Tibet aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé du Tibet autrefois, la question ouïghour, la question tibétaine, la question des marges d'une manière générale, il y a quelques années c'était aussi en Mongolie, se pose d'une manière constante en Chine, ça n'est pas nouveau. La répression, les camps de rééducation par le travail font intégralement partie du système, même s'ils sont aujourd'hui beaucoup plus présents au Xinjiang que peut-être dans d'autres régions de Chine. Donc là encore, on est face à un fonctionnement qui est celui du système. Il y a eu des période de relâchement et d'ouverture, comme le disait très bien Agnès Godu tout à l'heure. Et quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, sa grande terreur, c'est que justement cette ouverture se poursuive au point d'arriver à ce qui s'est passé en URSS sous Gorbatchev, c'est-à-dire que petit à petit, le régime évolue ou change. Et le changement de régime pour la Chine aujourd'hui, c'est la menace principale. Ça fait partie des choses contre lesquelles elle doit se préparer, elle doit absolument éviter. Donc toute opposition, toute critique, toute discordance sont fortement réprimées parce que la terreur de ce système, c'est justement d'être fragile et de savoir que finalement son pouvoir ne repose sur rien d'autre que sur la force. Et on se retrouve aujourd'hui d'ailleurs dans une situation qui était un peu celle de l'empire des Qing à la fin, dans les dernières années de l'Empire, où plutôt que de laisser émerger une société civile, une bourgeoisie qui bourgeonnait, eh bien, on choisissait la répression pour justement éviter tout changement. Et on voit à quoi ça aboutit d'ailleurs en 1911 avec l'effondrement de l'Empire chinois.
Pascal Boniface, est-ce que le vrai danger, ce sera Taïwan, la volonté de Xi Jinping de remettre la main sur Taïwan? Pourquoi je dis vrai danger? Parce que Taïwan est censé bénéficier de la protection américaine. Parce que là, il n'y a pas un risque que ça dégénère.
Ah, si la Chine voulait prendre de force, faire la réunification par la force, oui, il y a un risque de guerre entre Pékin et Washington, c'est très clair. Et pour Pékin, Taïwan, c'est vraiment essentiel. C'est un peu comme nous, l'Alsace-Lorraine, après 1872. Il faut vraiment réunifier, etc. Alors, ils disent par tous les moyens, pacifiquement, les Taïwanais ne sont pas prêts à être réunifiés pacifiquement avec la Chine, surtout après l'affaire de Hong Kong. Au départ, ce système de « une nation, deux systèmes » était mis en avant pour appâter un peu Taïwan. Ça marche à Hong Kong et donc Taïwan va accepter la réunification. Mais vu la remise au pas qui a lieu à Hong Kong, les Taïwanais se disent qu'il ne faut pas trop croire aux promesses d'une nation, deux systèmes, parce que c'est vite une nation et un seul système. Donc la réunification volontaire, elle n'aura pas lieu. Par la force, est-ce que les Chinois prendraient le risque d'affronter militairement les États-Unis, de déclencher une guerre? Je ne le pense pas non plus. Tant que Taïwan ne proclame pas officiellement son indépendance, tant que l'on reste dans un équilibre un petit peu finalement à la fois instable et stable, où Taïwan est indépendante de fait, mais ne proclame pas une indépendance de droit. Et donc là, les lignes rouges fixées par Pékin ne sont pas franchies. Donald Trump voulait jouer la carte de Taïwan pour embêter Pékin, pour avoir les avantages commerciaux. Je pense que Biden sera plus calme que lui, plus mesuré, où il donnera des garanties de sécurité à Taïwan, sans pour autant pousser Taïwan à demander officiellement l'indépendance.
Alors, pour rayonner à l'international, en tous les cas, rien de tel que d'enchaîner les records, voyager sur la Lune ou sortir un ordinateur ultra puissant. Donc, pour montrer sa supériorité, vous l'avez compris, la Chine mise depuis plusieurs années sur la haute technologie, une stratégie impulsée et revendiquée par le président Xi Jinping. Sujet de Magali Lacroze avec Barbara Steck et Pierre Dehorn.
La voilà lancée. La fusée chinoise file droit vers la Lune en cette fin novembre, à la conquête de l'espace. L'image vaut tous les discours de puissance. En direct à la télévision, les Chinois suivent la prouesse technique et politique, l'exploration spatiale qu'aucun pays au monde n'avait réalisée depuis 40 ans, se termine 15 jours plus tard. La Chine affiche son trophée, 5 roches lunaires, et entre dans l'histoire spatiale. Au même moment, un autre défi technologique est relevé, à plus de 10 000 mètres de profondeur dans le Pacifique occidental. Le sous-marin chinois Fen-12 est descendu dans les eaux les plus profondes de la Terre. Quelques jours plus tard à Pékin, cet ordinateur quantique calcule et calcule très vite. Les chercheurs qui l'ont mis au point affirment avoir réalisé en 3 minutes ce qui aurait nécessité 2 milliards d'années à un super ordinateur très puissant. Le message est clair, dans la course à la suprématie technologique, la Chine prend les devants.
Les recommandations du parti identifient l'indépendance, le renforcement de la science et de la technologie comme étant le soutien stratégique au développement national de la Chine. C'est un très grand projet national qui va attirer le regard du monde entier. D'ici 2035, Chang'an sera une ville moderne où règne l'harmonie sociale. Chang'an, une ville intelligente, une ville digitale qui nous guidera dans le futur.
Tout ce qu'il faut montrer au monde est là, dans ce clip de propagande. La vitrine de l'intelligence artificielle chinoise, c'est ici, à 100 km de Pékin. Les robots conduisent les bus. Dans cette ville du futur, la reconnaissance faciale remplace les porte-monnaies dans les magasins.
Merci pour votre passage. À bientôt.
Et les caméras connectées identifient les conducteurs officiellement pour leur sécurité.
Là, le système identifie si vous marchez ou si vous êtes à vélo. La couleur et la plaque de la voiture, si vous respectez le code de la route, si vous vous arrêtez au feu rouge. C'est pour maintenir l'ordre. Ça aide la police routière à faire son travail. Le gouvernement chinois a mis l'intelligence artificielle et l'innovation scientifique technologique à un niveau très élevé. Dans le rapport annuel du gouvernement, on a dit à plusieurs reprises que l'intelligence artificielle est devenue une stratégie nationale. Toute la société chinoise y apporte une grande attention.
Les géants de la tech aussi sont chargés de faire rayonner la Chine, mais attention, toujours sous l'œil attentif du régime. Leur poids et leur ambition peuvent parfois coûter très cher. Début novembre, le fondateur du site de e-commerce Alibaba s'apprêtait à célébrer l'entrée en bourse de sa filiale. 48 heures avant, le régime annule l'opération. Ce financier avance une explication.
Certains pensent que les commentaires négatifs de Jack Ma sur les marchés financiers chinois ont engendré cette suspension. Le problème, c'est qu'avant cette affaire, les investisseurs pensaient que la Chine aidait les entreprises de la finance et de la technologie pour se moderniser. Mais là, ils vont penser que la Chine voudra toujours avoir la mainmise sur ce secteur.
Le message semble avoir été entendu. En Chine, le vrai patron de la finance et des nouvelles technologies, c'est Xi Jinping.
Alors, question de téléspectateurs. La Chine prévoit-elle de lancer des missions chinoises habitées sur la Lune et de construire une base lunaire ? Agnès Godu, ça serait l'occasion de battre les Américains, là ?
Alors, je ne suis pas totalement au fait du dernier plan de
station. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans cette conquête spatiale ?
Comme tous les pays qui sont lancés dans la conquête spatiale, il y a évidemment la technologie militaire, ça c'est la première chose, et puis il y a l'image. Il y a le renforcement national. C'est les deux à la fois. C'est une performance que la Chine veut démontrer qu'elle peut se payer. Voilà.
Valérie Niquet, est-ce que le 21e siècle en termes d'innovation, tout va se passer en Chine ? Je vous pose la question parce que le Japon des années 80 nous a un peu déçus. Et l'autre jour, il y avait Cédric Villani, là, notre médaille Fields, qui disait « Le problème qu'ont les Asiatiques, c'est que en matière de technologie, pour vraiment faire une percée, à la fin, il faut renverser la table. » Eh bien, ce n'est pas la culture chinoise, ça, de renverser la table, comme on dit.
Alors, effectivement, bon, c'est vrai qu'il y a une tradition d'éducation qui n'encourage pas de poser trop de questions. Et d'une manière globale, c'est la vieille tradition confucianiste qui existe encore dans beaucoup de pays asiatiques. Et en Chine, il y a en plus, encore une fois, ce contrôle du parti qui fait qu'on se focalise sur des domaines qui sont soit utiles au contrôle, comme l'intelligence artificielle, toutes ces méthodes qu'on a vues dans ces villes nouvelles. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que chaque dirigeant chinois a sa ville modèle qui doit être construite, soit autour de critères écologiques ou ici, d'harmonie et de fonctionnement de l'intelligence artificielle et qu'en général, elles sont très rapidement abandonnées sans beaucoup de succès. Pour la Chine veut aller dans la Lune ou sur la Lune, effectivement. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que la Chine veut aller sur la Lune parce que les Américains y sont allés parce que c'était le cœur de la rivalité avec la deuxième puissance mondiale de l'époque qui était l'URSS et elle s'accroche en quelque sorte, même si c'est utile aussi et si technologiquement ça montre bien les progrès qui ont été appliqués, elle s'accroche en quelque sorte à ces vieilles manifestations de la puissance. Je rappelle que le Japon, le même jour quasiment du retour de cette capsule chinoise avec des échantillons, recevait ou retrouvait dans un désert en Australie un propre envoi sur un satellite de Mars. Donc certains pays choisissent de mettre tous leurs moyens pour aller sur la Lune, d'autres choisissent d'autres priorités. Pour la Chine, il y a des secteurs essentiels qui sont très liés à ce que la Chine met toujours en avant d'une manière très ouverte. D'ailleurs, il n'y a pas rien de secret là-dedans, qui est la conjonction des intérêts civils et militaires. L'industrie civile doit servir le militaire et les progrès en matière militaire peuvent également aider au progrès de l'industrie civile. Donc pour la Chine, il s'agit de développer sa puissance et elle a encore beaucoup de faiblesses technologiques et on l'a vu très récemment. Avec les embargos que justement les États-Unis ont mis sur des transferts de technologies, notamment en matière de microprocesseurs ou de chips qui vont dans les téléphones, par exemple, de dernière génération, où les plus grandes entreprises de télécom chinois sont aujourd'hui extrêmement embarrassées, parce que bien qu'elles fassent un effort en la matière depuis des années, la Chine, pour le moment, est incapable de fabriquer ce matériel sans les importer de l'extérieur. On a à peu près le même problème avec des moteurs d'avion. Et pour l'espace, l'aide russe a été aussi très importante, en tout cas initialement.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Pascal Boniface, l'espionnage chinois est-il actif en France ? Comment nos brevets sont-ils protégés ?
Ah bah oui, il est actif, bien sûr, comme enfin tout le monde espionne tout le monde. Les Chinois, disons, sont pas les derniers à essayer de voler les secrets industriels. Pendant très longtemps, il y a toujours des inquiétudes sur si des Chinois viennent dans les laboratoires scientifiques, est-ce qu'on doit les accueillir pour les former ou est-ce qu'il faut... Donc il y a toujours un peu ce doute, effectivement, mais je dirais, là, une fois encore, c'est pas propre aux Chinois. C'est un jeu auquel tout le monde participe. Dans les années 80, on se méfiait du pillage par les Japonais des technologies occidentales.
Valérie Niquet, pourquoi n'y a-t-il pas eu de deuxième vague en Chine, le Covid, le fameux Covid ?
Parce que le pays a été mis sous cloche. Alors d'abord, comme on le signalait Agnès Godu tout à l'heure, on n'a pas toutes les informations sur ce qui se passait dans toutes les provinces chinoises. Mais effectivement, s'il y avait eu une deuxième vague massive et un nombre de morts très, très, très élevé, on l'aurait vu, on l'aurait su tout de même. Donc le pays est sous cloche. Les voyages sont encore assez compliqués, y compris à l'intérieur du pays. Il y a ces fameux systèmes de contrôle avec des applications qui permettent de signaler immédiatement un contact possible avec des personnes qui ont été infectées ou qui sont passées dans une boutique ou une ville ou qui viennent d'une région infectée qui donc, elles, ne peuvent pas circuler. Donc, quand on met un pays sous cloche, effectivement, on arrive à contrôler plus ou moins cette épidémie, plutôt plus que moins dans le cas de la Chine. Je dois ajouter qu'à l'échelle de l'Asie, on va voir ce qui va se passer maintenant, mais on a eu quand même un nombre de cas d'une manière globale beaucoup moins élevé qu'en Europe et qu'aux États-Unis, et notamment un taux de mortalité beaucoup plus bas qui, à mon avis, est aussi très lié à des modes de vie, notamment des modes d'alimentation et de santé en termes de surpoids, en termes de diabète, qui sont moins répandus dans les pays d'Asie, notamment en Asie du Nord-Est, que peut-être aux États-Unis, dans certains pays d'Amérique latine ou en Europe.
Marie-Françoise Renard, la Chine cherche-t-elle à diviser les Européens comme naguère Trump ou Boris Johnson ?
Oui, ça, sans aucun doute. Elle l'a beaucoup fait par le passé. On l'a vu dans ses relations avec l'Angleterre, dans ses relations avec l'Italie. D'une façon générale, d'ailleurs, c'est une stratégie qu'elle utilise au niveau mondial. Par exemple, entre les pays en développement et le reste du monde, elle va demander le soutien des pays en développement quand elle est critiquée par les pays développés. Et au niveau de l'Europe, oui, elle a essayé de diviser pour mieux régner, ce qui est le cas également des États-Unis. Et d'où l'importance d'avoir une politique européenne. Ça, sans aucun doute.
Pascal Boniface, faut-il que nos jeunes apprennent le chinois ? Notre génération partait à la conquête de l'Amérique. Est-ce que la suivante partira à la conquête de Shanghai ?
Alors, ça se développe. Il y a beaucoup d'instituts Confucius un peu dans le monde. C'est quand même assez compliqué. Et certains se disent, il y aura maintenant des machines à traduire d'ici quelques temps. C'est moins la peine. Mais je ne pense pas que les Français se mettent massivement à apprendre le chinois, vu la difficulté qu'il
Mais
y a pour le faire.
Dit autrement, les meilleurs élèves vont dans les grandes firmes américaines. On voit qu'il y a Huawei là, qui va ouvrir en Alsace. Est-ce que demain, la génération suivante, les meilleurs, iront travailler pour les géants, les multinationales chinoises ?
C'est déjà un peu le cas, effectivement. Huawei, effectivement, est en train de piller. Nos cerveaux, on a de très bonnes écoles de formation d'ingénieurs, de mathématiciens. Et pourquoi on est moins bon en intelligence artificielle par rapport aux Chinois, aux Américains ? C'est que nos spécialistes partent aux États-Unis, pas encore en Chine, mais maintenant les Chinois essaient d'employer en France nos meilleurs spécialistes avec des salaires qui n'ont rien à voir avec les salaires qu'on peut leur offrir. Donc il y a un vrai défi, mais qui ne passe pas forcément par l'apprentissage de la langue chinoise. L'apprentissage de l'anglais suffit encore.
On est envahi de produits chinois et on les achète. Pourquoi pas une opération d'envergure pour décourager ces achats ? C'est vrai qu'on apprend, Agnès Godu, que la Chine ouvre une centrale à charbon tous les 15 jours. Et ce charbon, il sert à fabriquer les babioles que nous importons en Europe. Il faudrait qu'on mette, c'est la fameuse taxe aux frontières que veulent mettre les Européens, la taxe carbone.
Écoutez, sur le fond, ça pose quand même la question qui resterait longue à traiter, de savoir le modèle que la Chine nous envoie avec effectivement ses boules de Noël et avec ses relations commerciales ou ses relations politiques. C'est une question extrêmement importante. Qu'est-ce qu'ils nous envoient, qu'est-ce qu'ils envoient à l'Afrique du Nord ou à l'Afrique ou au Moyen-Orient en leur vendant des systèmes de reconnaissance faciale. Est-ce que l'on veut réellement voir le monde façonné par une Chine tout à fait libre de commercer et d'exporter ce genre de système ? Sur le chinois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Boniface. Le chinois s'apprend très bien, nous l'avons appris. Ah. Et ça prend simplement du temps et de l'effort. Et c'est essentiel pour comprendre réellement, je pense, ce qui se passe et ce qui est à l'œuvre dans la pensée des Chinois. Donc, beaucoup de gens l'apprennent. C'est très bien.
Alors, les Ouïghours étant musulmans et turcophones, pourquoi Erdogan ne se manifeste-t-il pas ? Pascal Boniface, Erdogan, il a peur ?
Parce qu'il y a des intérêts commerciaux qui sont importants. La plupart des pays musulmans n'ont pas critiqué la Chine pour le traitement des Ouïghours, parce qu'ils ont d'une part, parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas très préoccupés par les droits de l'homme en général, et donc une minorité qui n'est pas qui est en Chine, et disons que les intérêts économiques sont importants. Et puis il y a aussi, je ne te critique pas, tu ne me critiques pas, et c'est un peu comme ça se passe comme ça au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Donc il y a une sorte de pacte du silence entre pays qui évitent de se critiquer mutuellement.
Valérie Niquet, quel est le talon d'Achille de la Chine ? Un, et rapidement, parce qu'il y a peu de temps.
Son système politique, je crois que c'est ça qui va l'empêcher de véritablement accéder à la première place à laquelle elle rêve aujourd'hui.
Marie-Françoise Renard, les portables que nous utilisons sont-ils fabriqués par des esclaves ? Il y a 600 millions de Chinois qui vivent avec moins de 100 euros par mois, hein, je crois.
Oui, alors je ne peux pas vous dire si ce sont des esclaves. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif de Xi Jinping de supprimer la grande pauvreté n'est pas atteint, et qu'il y a encore un très grand nombre de Chinois qui vivent avec un niveau de vie qui est extrêmement bas, un salaire extrêmement faible et des conditions très difficiles, notamment dans les zones rurales.
Alors justement, quel est le salaire moyen en Chine ? Par habitant, la Chine est 3-4 fois plus pauvre que nous, vous autres
c'est
Français.
C'est 10 000 euros par habitant et par an, mais avec des très grandes disparités, et parce que c'est un pays très inégal.
C'est-à-dire qu'à Shanghai, on vit à l'européenne, et dans les provinces reculées, on vit, c'est encore le Moyen-Âge. C'est ça la vraie Chine, Agnès Godu ?
Oui, il y a d'énormes disparités. On doit avoir 1 000 euros par an et par personne dans un village reculé et 50 000 pour certains à Shanghai. L'écart est de ce niveau-là. C'est très à la louche, mais l'écart est énorme.
Il y a un écart qui nie l'inégalité entre les gens, et il est équivalent en Chine aux États-Unis.
D'accord, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inégalités. Alors, les Chinois connaissent-ils les origines exactes de la pandémie de Covid ? Est-ce un secret d'État ? Pascal Boniface, il y a eu Le Monde encore, le journal Le Monde, qui a fait une enquête. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est incapable de savoir si ça sort d'un laboratoire. Le pangolin qu'on avait accusé est finalement innocenté. On ne sait pas d'où il vient.
Non, et l'enjeu important, c'est de savoir s'ils vont ou non accorder à l'OMS le droit de venir faire une enquête sur place. Xi Jinping s'était engagé à le faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que tant que l'OMS ne pourra pas aller faire une enquête approfondie sur place, il y aura toujours un doute.
Agnès Godu, il y a le doute que c'est d'un laboratoire, une mauvaise manip dans un laboratoire, ce virus aurait pu s'échapper.
Alors, il y a le doute de ça.
Une rumeur.
Ou une autre possibilité, qui est la transmission directement par l'animal. Mais cette enquête du Monde est effectivement extrêmement éclairante. Elle pose bien la question, à savoir, est-ce que les experts de l'OMS, s'ils sont autorisés à aller même à Wuhan, pourront mener aussi leurs propres investigations ? Apparemment, il apparaît qu'ils seront obligés de travailler sur des débuts de conclusions faites par des experts chinois. Pour ce qui est de l'indépendance de la recherche, ça va poser problème. Donc, on est quand même face à... sur votre première question, est-ce que ce serait un secret d'État ? Ça l'est déjà.
Marie-Françoise Renard, deux questions en une. Qu'en est-il de la 5G chinoise ? Et qu'en est-il de la responsable de Huawei en prison au Canada ? Qui est la fille du fondateur, je crois, qui a été arrêtée un peu sur ordre de Trump, hein.
Oui. Bon, ça, pour la deuxième partie de votre question, il s'agit des relations politiques et des rapports de pouvoir entre la Chine et l'Amérique du Nord et des motifs de négociation qui peuvent être utilisés en disant « je te donne ça, tu me donnes ça » ou « je ne fais pas ci, tu ne fais pas ça ». S'agissant de la 5G, il s'agit plus, d'une façon plus générale, et je vais essayer d'être très brève, d'un énorme plan de la Chine sur les nouvelles technologies. Et ce qui est très important, c'est que dans ce plan qui est China Standard 2035, la Chine voudrait définir les normes technologiques. On a vu qu'il y avait d'énormes progrès en matière technologique, même si la Chine n'a pas inventé grand-chose. Et si elle est dépendante des technologies étrangères, elle se place sur les technologies émergentes. Et donc, dans ce domaine-là, elle voudrait, dans les années qui viennent, participer à la définition des normes pour pouvoir imposer ces normes, ou en tout cas, ne pas simplement se voir imposer les normes internationales qui prévalent aujourd'hui. Donc c'est un enjeu qui est extrêmement important.
La jeunesse chinoise est-elle heureuse ? En tous les cas, on lui souhaite. Question de Mabel dans le Calvados. Agnès Godu.
Si le bonheur consiste à consommer et avoir le droit de consommer...
Le bonheur est-il inhérent
à la jeunesse?
La
jeunesse citadine chinoise est heureuse.
Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Donc cette émission sera diffusée ce soir à 22h25. Bien sûr, vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.